Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite, présenté par l'agence Pure Commerce. Mon nom est Antoine Gagné et mon objectif est de vous aider à bâtir un commerce élite. Et cette semaine sur le balado, on reçoit notre directeur du emailing chez Pure Commerce, Monsieur Tony Tran, qui nous explique tous les pièges à éviter pour s'assurer de ne jamais tomber dans les spams quand on envoie nos infolettres. Bonne écoute, ça commence maintenant. Chronique Google Ads, car comme vous le savez, le volet Google est un volet principal chez Pure Commerce. À la fin mars, Google a annoncé le lancement de leur nouveau centre de transparence publicitaire. Comme le fait Facebook depuis plusieurs années, il sera maintenant possible de voir la bibliothèque publicitaire d'annonceurs sur Google, une action qui s'inscrit dans la volonté de transparence de l'entreprise mère Alphabet. Ça nous permet maintenant d'avoir une source sûre pour savoir ce que font nos compétiteurs, car avant, on utilisait des techniques plus ou moins efficaces pour voir les publicités que nos concurrents diffusaient sur la plateforme. Même chose pour Facebook Ads avec le Ad Library. On peut suivre continuellement les publicités actives de n'importe quel annonceur. Donc, si avec le temps, on observe qu'une même publicité est toujours active, on est en droit de penser que c'est grâce à ses performances. Donc, fini l'époque où on devait écrire le nom d'une marque ou ses mots-clés dans la barre de recherche pour tomber sur des publicités d'un annonceur en particulier. Il nous suffira maintenant de nous rendre dans le centre de transparence publicitaire pour voir les publicités qu'un annonceur a roulées, quelles publicités ont été diffusées dans certaines régions, la dernière date à laquelle une publicité a été diffusée et le format de celle-ci. Google offre même un plus grand niveau de transparence pour les publicités politiques, nous permettant de voir le montant que les annonceurs dépensent, et ça, Facebook ne le mentionne pas, donc c'est une très grosse avancée. Le nombre de fois qu'une publicité a été montrée et les critères du ciblage par location. En tant que marketeur, nous, ça va nous permettre de faire des analyses de la concurrence un peu plus sûres. On va pouvoir analyser les messages qu'utilise la concurrence et s'ils ont des visuels YouTube, display ou des publicités search. Ça permettra de faire une veille et une analyse concurrentielle pour voir si nos visuels sont alignés avec ce que fait la concurrence, si on peut s'en inspirer, sur quel argument ou quel axe marketing il faudrait se concentrer pour mieux performer. Ce ne sont que quelques manières de tirer un maximum de profit de cette nouvelle fonctionnalité. Mais c'est déjà très riche en informations. On le dit plusieurs fois sur le podcast, mais le email marketing est le levier le plus rentable pour n'importe quelle boutique en ligne. Maintenant, plusieurs entreprises n'exploitent pas au maximum ce canal. Leurs envois se retrouvent dans le spam de leurs prospects sans même le savoir. Aujourd'hui sur le podcast, Tony Tran, directeur emailing chez Pure Commerce, est avec nous pour nous livrer des trucs et astuces afin de ne pas tomber dans le piège. On vous livre d'ailleurs une étude de cas qui montre comment on a été capable de sortir un client du spam en passant son taux d'ouverture de 11% à plus de 40%. Bonne écoute! Donc, on est de retour sur le volet discussion du podcast Commerce Élite. Et là, je suis avec quelqu'un que ça fait un bon bout de temps qu'il est venu sur le podcast parce qu'il était en train de s'occuper de sa famille en congé de paternité, Monsieur Tony Tran, directeur du emailing chez Pure Commerce. Comment ça va aujourd'hui?
Bonjour Antoine, ça va très bien, très bien, bien content d'être ici parmi le super podcast au fond là.
Tous nos auditeurs qui nous écoutent, est-ce que le congé fait du bien? Est-ce que tu es bien reposé?
Oui, très bien reposé, mon cerveau est prêt à repartir avec le mailing en feu ici. Puis je te dirais que j'adore mes enfants, j'adore ma famille, mais je me suis ennuyé de mon vrai petit bébé, là, le mêlé.
C'est bon à savoir. Et là, Tony, on va parler d'un sujet qui est pas souvent abordé, mais qui malheureusement est assez problématique pour beaucoup d'organisations, le spam. Beaucoup d'entreprises, des fois, avec leurs infolettes, vont tomber directement dans le spam. Mais là, ça serait peut-être intéressant de savoir aujourd'hui comment s'y prendre pour ne pas tomber dans le spam.
Effectivement, c'est comme le mouton noir. Là. On veut pas trop en parler, on veut pas trop regarder ça, mais on sait que c'est présent. Puis, je pense que c'est bien de tout décortiquer ça, voir comment qu'on peut mieux comprendre ça aujourd'hui parce qu'en bout de ligne, c'est ça, c'est la bête noire, là. C'est le méchant.
Mmh. Donc, donne-nous un peu de contexte. Qu'est-ce qui se passe un petit peu avec le spam en général? Qu'est-ce qui arrive? Comment qu'on peut se retrouver dans le spam? Comment qu'on peut savoir si on tombe dans le spam?
Certains, ben, pour mettre en contexte, tu sais, le spam, c'est simplement qu'un certain algorithme te score de ta réputation auprès des fournisseurs d'emails. Et quand tu tombes sur un certain seuil, en dessous d'un certain seuil, ben, tu tombes dans la boîte de spam. Donc, tu tombes pas dans la boîte principale des gens que tu envoies tes contacts. Puis, en bout de ligne, tu as moins de lecture, tu as moins d'ouverture, tu as moins de lecture parce que le monde ne voit même pas ton email. Puis, c'est ça le spam, en gros, là, pour pas être trop technique. Puis, comment qu'on peut savoir si on tombe dans le spam? La meilleure manière qu'on peut le voir directement, c'est dans le taux d'ouverture. Si on envoie à 100 personnes un jour, puis, je sais pas, tu as 50% du monde qui ouvre, puis deux mois plus tard, tu te rends compte que c'est ce même monde-là, il ouvre moins drastiquement. On est à 10%, mettons. Ben, il y a des fortes chances que soit que ton contenu est vraiment pourri et tout, bien sûr. Mais quand c'est aussi drastique, probablement que le monde, ils n'ont même pas l'opportunité d'ouvrir tes emails. Ils les voient pas parce que ça tombe dans leur spam. Puis personne va aller dans son spam pour chercher ton email puis l'ouvrir. Tu sais, c'est très rare.
Je comprends très, très bien. Je pense que Tony, tu nous as sorti des informations avec un cas client, une étude de cas aujourd'hui qui parle un petit peu de ces enjeux de spam-là ici aujourd'hui. Peut-être tu pourrais nous donner un peu de contexte. Quel type de client on va parler ensemble? Quelle était sa réalité au niveau des différentes boîtes email? Et également, qu'est-ce qui se déroule aujourd'hui?
Oui. Pour remettre le contexte au fond, tu sais, je parlais d'algorithme tantôt. C'est pas tant qu'on, en fait, c'est un petit peu mystérieux parce que les Google de ce monde veulent pas dévoiler, tu sais, ces algorithmes-là parce que justement, on peut en l'exploiter. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quand ton taux d'ouverture est en bas de 30%, c'est une indication pour Google. Au fond, Google, son algorithme, il est basé, on parle de quelques centaines de facteurs. Mais le plus gros, c'est l'engagement. Qu'est-ce que tu communiques à tes personnes, c'est pertinent pour eux. Est-ce qu'ils l'ouvrent, est-ce qu'ils engagent? Donc, l'engagement. Et ça, c'est reflété par le taux d'ouverture. Quelqu'un qui reçoit, si 30% de ta base l'ouvre, c'est bon signe. Fait que du moment que tu descends en bas de ce 30-là, tu vas commencer à tomber dans le spam, ça va diminuer ton taux de délivrabilité. Et c'est là que ça s'empire, puis ça fait un effet boule de neige. Fait que c'est un peu ce qui s'est passé avec notre client ici. C'est un client dans au fond de l'industrie de linge, de vêtements et accessoires pour bébés. C'est une belle industrie où que le monde sont très, très actifs. Ils veulent activement acheter. Puis, la saison, c'était durant le Black Friday. Donc, arrivé le Black Friday en novembre, on arrive, on envoie des emails. Puis, ce qu'on fait pour pas mal tous les clients, puis ce que je conseille fortement de faire, c'est d'envoyer au plus de monde possible. On dit, on s'en fait juste spam, on veut rejoindre le plus de monde. C'est la seule période dans l'année où on veut maximiser nos ventes puis que le potentiel est là. Tout le monde veut recevoir nos emails. Fait qu'on a fait ça comme avec tous les autres clients. On a envoyé vraiment at large à tout le monde. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'arrivé en fin novembre, début décembre, on s'est rassis, on a regardé les stats, on s'est dit, les chiffres ont été bons, mais on remarque que le taux d'ouverture est moyen. Il y a quelque chose qui cloche. Fait que c'est de là que, puis pour te donner une idée, tu me demandais des chiffres, je les ai sortis juste pour donner un peu plus de contexte ici. On regardait, on avait un taux d'ouverture de 18%. Tu sais, puis tu te rappelles, je disais le 30%, on veut le viser. Non, pendant Black Friday, c'est pas critique d'avoir ce taux-là parce qu'on vise beaucoup plus large. Fait que c'est pas tant grave. Mais 18%, ça a quand même baissé, chuté de 12%, tu sais, en dessous de qu'est-ce qu'on veut. Donc, comment qu'on peut remonter ça? Puis c'est toujours un challenge parce que c'est facile, on va dire, de dire je veux pas tomber dans le spam, fait que je vais tout faire pour pas tomber, mais qu'est-ce qui arrive si tu tombes dedans? Comment tu fais pour t'en sortir? Fait que c'est un peu ça qu'on veut discuter aujourd'hui. Fait que le contexte, c'est que t'es à 18%. Fait que la première étape, c'est de savoir pourquoi t'es dans 18%, puis qu'est-ce qui descend ta moyenne? Parce que souvent, c'est pas tous les fournisseurs qui vont te flaguer comme spammer nécessairement. Fait que dans ce cas-ci, on a sorti les stats, on a vu. Puis au fond, moyenne taux d'ouverture Gmail, on est à 32%, ce qui est bon. Mais le fautif ici, c'était Hotmail qui nous donne 11% de taux d'ouverture. Fait que tu vois là, c'est comme, OK, le bobo, il est là, 11%. Fait que tu vas me dire, ben Tony, qu'est-ce qu'on doit faire quand que on est à 11%, à part capoter puis appeler ton agence pour dire, qu'est-ce qu'on fait? en gros, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il faut garder un volume d'envoi. Fait que ton Gmail, il est correct. Tu y touches pas. Mais le Hotmail, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller chercher ce qu'on appelle on parle souvent de segments d'engagés, là. Fait que du monde qui ont ouvert des emails pendant un certain jour. Mais là, on va parler de segments hyper engagés. Donc, des consommateurs hyper actifs, carrément. Fait que, puis comment qu'on définit ça à l'interne? Ça dépend des industries et tout. Mais grosso modo, la règle, c'est que tu peux dire quelqu'un qui a ouvert au moins 3 emails ou cliqué au moins 3 emails dans un laps de temps. Il est hyper actif. Il n'a pas ouvert un, il en a ouvert 3. Fait que la chance qu'il ouvre ton prochain email est très grande. Donc, c'est à partir de cette prémisse-là qu'on est parti. On a fait, on a séparé la base. On a dit, si t'es un Hotmail, on te met dans une boîte. Si t'es pas Hotmail, on te met dans une autre boîte. Et là, on envoie les emails comme normalement avec ces deux segments-là. La distinction, c'est que les Hotmail, on prend les hyperactifs, puis le Gmail, on prend normal, comme les actifs, les engagés normalement. Et c'est là qu'on arrive à remonter lentement le taux d'ouverture. Donc, on se fait moins flaguer en spam. Je sais pas si ça fait du sens jusqu'à date.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Elite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne, en offrant tous les services qu'une boutique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour débuter l'année en force, rendez-vous au www.purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse. Ou encore, venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Est-ce que tu as des chiffres un peu à nous donner? Donc, je comprends très bien, on peut appeler ça de la sursegmentation ici. Donc, au-delà de simplement regarder les gens qui ont ouvert nos emails, on regarde les gens qui ont ouvert nos emails selon des domaines spécifiques, Hotmail, Gmail, etc. Donc, la sursegmentation qui opère pour s'assurer qu'on est capable de ramener les gens en dehors des boîtes de spam. Et tranquillement, tu mets ces actions-là en place. Tony, quels sont les résultats que tu as été capable d'observer ici?
Oui. En termes de résultats, au fond, on met en contexte, c'est normalement, on vise le 30 jours, 60 jours, 90 jours. Fait que pour Gmail, on est resté dans ces eaux-là, le 60 jours, qui était déjà bon, correct à 32%. Mais pour le Hotmail, on a pris les hyperactifs, donc qui ont ouvert et tout, trois fois et plus. Mais on est allé aussi on a réduit à 30 jours. Puis dans certains cas, là, certains comptes que vous allez voir, il faut le tester. Est-ce qu'on devrait même y aller à 15 jours pour assurer que le monde s'engage super, super beaucoup? Et ici, on a testé à 30 jours puis c'était correct. Fait qu'après un mois d'envoi, là, 4, 5, 6 emails, on a réévalué la chose et on a dit, OK, ça continue à augmenter, mais on était à 20, 25, 26. Fait que c'était bon. Mais là, on veut pas juste arrêter, on veut surpasser ça pour justement élargir le plus de monde. Fait qu'on était à 26, 27%. On s'est dit, comment qu'on peut l'augmenter encore plus? Fait qu'on était allé à 45 jours, de 30 jours au fond, là, à 45 jours. Fait que tu vises encore plus large, fait que ça permet à un plus gros bassin de monde à s'engager. Et c'est là que ça aide ton score chez Google et les autres fournisseurs d'email.
Donc, on amène ça à 45 jours, même des fois à 60 jours avec Gmail. Résultat au final, peut-être que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on se rend?
Oui, ben là, en ce moment, c'est ça. Tu vois, en finissant le mois de mars, on était à Hotmail à 42% et à Gmail, on était à 48%. Donc là, on a un beau problème, c'est qu'on a trop segmenté. Il y a comme le potentiel, il est plus large que qu'est-ce qu'on vise. Fait qu'on est très content dans ce cas-là, on s'entend, là. Fait que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va réaligner l'affaire, on va élargir le bassin pour aller chercher encore plus de monde. On est bien au-delà du 30% de seuil. Et c'est là qu'on peut viser d'autres segments à améliorer. Puis, en l'occurrence ici, pour vous donner un exemple, on regardait Outlook. Puis Outlook était à 29%. Fait que c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Fait qu'on dit, OK, on re-rentre Hotmail dans Gmail, dans le segment de Gmail, je veux dire le général, puis on va réisoler Outlook pour aller augmenter ce taux-là. Fait que 29%, c'est bon, mais est-ce qu'on pourrait pas l'augmenter à 35%, puis ainsi de suite. Fait qu'on passe à travers les fournisseurs majeurs. Puis c'est souvent important de voir le volume aussi. Fait que si tu as 2% d'ouverture, mais c'est un Vidéotron ou une adresse email par rapport, on va dire, là, que tu as 2 personnes sur une base de 10 000 personnes, ça vaut pas la peine de faire tout ça. Mais quand tu as 50% de ta clientèle qui est sur Outlook ou sur Hotmail, peu importe, là, c'est comme, OK, là, le petit pourcentage, c'est des centaines et des milliers de personnes là, potentiellement. Donc, c'est là que ça joue.
Bon, j'ai des petites questions pour toi, Raphaël Tony. Donc, très intéressant. Je veux juste le ramener à l'audience aujourd'hui de ce qu'on résume très simplement. Il faut faire une analyse en détail pour savoir quand on a des taux d'ouverture qui sont vraiment à la baisse, pour quelles raisons ça se déroule et est-ce que c'est la même chose d'un domaine à l'autre? Est-ce que c'est la même chose avec Outlook, avec Hotmail, avec Gmail, etc.? Et suite à ces analyses-là, bien entendu, comme Tony vient de l'expliquer, on intègre en place des processus de sursegmentation. Maintenant, j'ai des petites questions pour toi, Tony, ce qu'on appelle souvent des mythes ou des réalités. Et ça se déroule avec, d'ailleurs, une acquisition qu'on a faite récemment dans notre groupe. On a acheté un nouveau podcast. Et ce podcast-là venait avec une infolettre, donc avec une liste de emails. Et bon, par contre, on n'a pas acheté l'entreprise au complet. Donc, l'expéditeur des emails avait un site Internet associé à son email qu'on ne pouvait pas utiliser. Donc, on devait créer un nouveau nom de domaine pour envoyer nos emails. La question que je te pose ici, avec un nouveau domaine, est-ce que on peut envoyer des emails automatiquement ou d'un autre côté, on risque de tomber dans le spam?
Oui, c'est une très bonne question. Puis ça fait peur parce que, tu sais, dans notre cas, on a un peu plus d'expérience, on connaît la machine, on va dire, mais quelqu'un qui vient de commencer, puis là, OK, j'ai des listes, puis tout, qu'est-ce que je fais? Fait que la règle d'or ici, c'est d'y aller étape par étape, progressivement. Fait que, au fond, c'est comme si on venait de rencontrer l'algorithme de Gmail, puis on dit, ah, bonjour, voici 100 personnes, regarde ce qu'ils font, moi, je suis gentil, j'envoie à 100 personnes, puis regarde, ma base, elle me connaît, elle va ouvrir. Puis c'est là qu'il va dire, OK, première impression, c'est bon, t'as 50%, OK, je vais t'en donner... C'est 200, 300, 5000, 2000, 3000, puis tu t'augmentes progressivement comme ça. Ça, c'est la première règle à comprendre. Puis pour aider à faire une première bonne impression, c'est de choisir les 100 meilleures personnes. Donc, les 100 personnes qui ont le plus de chances d'engager avec vos emails. Donc, on peut parler de les 100 dernières personnes qui sont inscrites, par exemple, ou si vous avez encore plus d'historique, les 100 personnes qui ont ouvert le plus d'emails dans le passé ou qui ont ouvert au moins 5 emails, 10 emails, 15 emails, peu importe. C'est de là qu'on va aller chercher. C'est quelqu'un qui a ouvert tous vos emails depuis tous les temps. On s'entend. Le prochain email, il va probablement l'ouvrir. Fait que là, il vient d'être... C'est un point gratuit carrément. Fait que si on arrive à avoir 100 ou 1000 personnes comme ça, la première impression que vous allez faire chez Google, ça va être incroyable. Il va vous scorer 98% sur 100 déjà. Puis c'est beaucoup plus facile par la suite. Parce que l'envers de la médaille, c'est que si t'arrives, tu dis, t'as une liste de 10 000, tu viens de commencer un nouveau domaine, t'envoies à 10 000, mais si t'as 20% du monde qui ouvre, là, Gmail, il est comme, non, toi, t'es sûrement un spammer, t'as acheté une liste, tu sais, piratée, peu importe, puis là, t'essaies de faire des ventes rapides, je te mets non seulement moins 100, mais je te mets moins 1000, ça va te prendre beaucoup de temps à remonter. Fait que c'est pas une affaire de prorata, t'es méchant, t'es gentil, puis je te mets juste moins quelques points, c'est drastique. Google, il veut combattre le spam. Fait, il va pas juste te donner une petite punition. Là. Tu vas être comme dans l'espèce de prison. Là. Ça va prendre beaucoup de temps.
D'autres questions qui reviennent souvent. Si on est dans le rouge, si on tombe souvent dans le spam et nos taux d'ouverture sont à la baisse, est-ce que ce serait plus intéressant de prendre une petite pause du emailing ou on continue à en envoyer?
Oui, c'est par peur. Souvent, le monde va dire, ben, on va en envoyer moins. Peut-être que le monde, ils en ont marre et tout. Au contraire, il faut absolument pas arrêter. Il faut aussi une bonne cadence. Donc, au moins un email par semaine, puis au moins 4 par mois. Juste pour dire à Google, tu sais, oui, on est dans le tort, désolé, mais on continue d'être actif puis notre base est réellement engagée. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il faut y penser, c'est que si le monde ouvre moins tes emails puis t'arrêtes d'en envoyer, le monde il t'oublie. Puis là tu dis ah ben on a laissé un break de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis là tu reviens puis t'envoies un email, le monde ils t'ont oublié là. Fait que là ils vont pas ouvrir. Fait que là ton taux va juste baisser. Puis ça va être super difficile de remonter. Fait que tu gardes ta cadence puis t'essaies de remonter ça avec les trucs et astuces qu'on a partagé là durant le podcast.
Fantastique. Troisième point qui revient l'avant-dernier ici. Est-ce qu'on se doit d'éviter des mots comme promotion, gratuit ou encore rabais pour éviter le volet promotionnel qu'on est capable de voir sur Gmail? Si bien entendu, on a segmenté nos emails, on est capable d'avoir les emails principaux, les emails promotionnels, les emails sociaux. Est-ce qu'il y a des mots qu'on doit éviter pour s'assurer de rester à un endroit intéressant sur Gmail?
Oui, ben ça a été longuement des discussions, tu sais, qui ont buzzé le marché un peu là. Tu sais, on veut éviter le spam, il faut absolument éviter les mots comme gratuit, comme promotion, comme offre illimitée, tu sais. Voilà. Dans la réalité des choses, quand on regarde ça de façon macro, c'est que oui, ça va aider, sauf que le pourcentage de monde qui utilise Gmail puis qui ont le tab de promotion, c'est une mineure partie du monde. Donc ça va influencer cette portion-là, mais de te casser la tête à pas utiliser ces mots-là, souvent un mot gratuit dans un titre va t'amener 10% de plus d'ouverture versus un... Mettons que tu as 2% de ta base qui est un Gmail, peu importe le pourcentage. Là. Le prorata effort versus potentiel ne vaut pas toujours la peine. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire pour optimiser quand on est rendu à, tu sais, dans tes top déjà. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas la fin du monde nécessairement.
Je comprends. Et dernière question, est-ce que on fait plus d'argent si on envoie à tout le monde? On a des clients qui nous disent ça. Envoyez nos emails à toute notre liste, on va faire plus d'argent. Est-ce que c'est vrai?
C'est vrai. Les chiffres ne mentent pas. T'sais, si tu envoies à 1 million de personnes, coup sur coup, pendant un mois de temps, oui, tu vas faire plus d'argent que si tu envoies seulement à 500 000, exemple. Oui. Le problème, c'est que le spam, c'est comme un poison caché. Ils vont pas te le dire, t'es en train de descendre ton score. Attention, attention, alerte. Fait que du moment que tu vois tes chiffres rentrer, puis un mois plus tard, quand t'as déjà trop spammé, puis tu tombes dans le spam, c'est super long avant de revenir parce que comme on l'a expliqué, faut que tu segmentes tes bases, tu redescends. Fait que quitte à envoyer à la moitié de ta base en tout temps versus toute ta base, puis réduire à 10% pour augmenter à 20, à 30, à 40, c'est mieux d'envoyer à 50% tout le temps puis rester safe parce que revenir après, c'est super compliqué. Mais le point reste que c'est oui, tu as plus de potentiel parce que tu as plus de monde en bout de ligne. Donc, les gros événements comme Black Friday, comme on l'a mentionné, mais le parc qui vient toujours de passer, c'est parfait, c'est une belle opportunité, c'est le printemps, le monde sont contents, vas-y, blast, t'as laissé correct ça. Mais après ça, il faut se remettre à l'ordre, puis il faut bien être rigoureux. Là.
Je comprends très bien. Tony Tran, toujours excessivement intéressant de t'avoir sur le podcast. On va te revoir bientôt parce que là, t'es parmi nous. On va essayer d'éduquer notre audience le plus possible pour le volet e-commerce, pour le volet mailing. Avant que je te laisse filer, est-ce que t'as des choses à rajouter pour notre audience?
Non, mais c'est super. Je suis super content d'être de retour ici puis de partager mes connaissances. Ça fait un gros plaisir. Un conseil pour vous, si jamais vous devez tomber en congé paternité, n'oubliez pas de rester à l'affût de tout ce qui se passe parce que ça bouge les choses. Et juste pour vous dire, moi, pendant mon congé, il y avait le AI qui est apparu. Fait que c'est une toute affaire de rien. Voyons donc. Mais une chance que j'ai lu sur ça parce que c'est fou.
Ça va très vite. Tony Tran, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Libre.